Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Auditeurs d'Allegre FM, bonjour à tous les auditeurs d'Allegre FM. Voilà, j'espère qu'on a entendu le début de ma phrase. Nous sommes le 8 juillet 2023, samedi, il est 16h. Nous sommes en direct dans le studio d'Allegre FM. C'est Philosophie au présent, une émission qui a été créée depuis 5 ans. C'est un partenariat entre le Collège international de philosophie et Allegre FM qui nous reçoit, voilà, hein, depuis quelques années. Bonjour Stéphanie Ronchevski-Degore, une de nos présentatrices avec moi-même Nathalie Perrin. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Nathalie.
Bonjour, enchantée de te revoir. On s'était vu la semaine dernière, le 1er juillet. On a deux émissions là qui se chevauchent et ce sera la dernière aujourd'hui. Et quelle dernière ! Michele Saporiti qui nous fait l'honneur de venir depuis son Italie natale.
Bonjour Nathalie et bonjour Stéphanie.
Bonjour Michele.
Voilà, et nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Simone Dweck. Bonjour Simone.
Bonjour à vous.
Merci d'être, venue dans le studio d'Allegre FM. Nous vous recevons pour cet ouvrage que vous avez écrit et publié exactement en 2021 aux éditions Créafis, qui s'appelle L'acte radiophonique, une esthétique du documentaire. Voilà, on a plein de choses à vous dire. Alors, je ne vais absolument pas perdre de temps et peut-être vous présenter un petit peu aux auditeurs, ou en tout cas présenter ce que vous avez fait, parce que vous avez une grande carrière dans le milieu de la radio, hein, notamment. Vous avez animé des émissions en direct du Car Studio de France Culture, hein, qui avait été diffusé depuis la province. Vous avez participé à la création, à l'élaboration, à la diffusion des Îles de France, qui étaient, alors moi j'ai découvert ça, des émissions sur les grandes mutations de Paris et de sa banlieue. Voilà, je ne connaissais pas. Mais aussi sur tout ce qui constitue le fond historique, sociologique, humain et poétique de la capitale. Vous avez produit, et c'est à ce titre aussi que votre ouvrage nous a intéressés, vous avez produit de nombreux documentaires concernant l'ethnologie, La matinée des autres, concernant le cinéma, Les mardis du cinéma, Ciné Club, concernant la sociologie, Le temps qui change, Grand angle, l'histoire contemporaine avec Les lieux de mémoire. Et vous avez aussi, vous êtes aussi intéressé au domaine du savoir, et notamment dans cette grande émission que j'ai eu le privilège d'écouter, Alina, Les chemins de la connaissance, hein, et Tire ta langue, hein, c'est une grande émission ça. Vous avez contribué à faire des portraits dans la collection Le Bon Plaisir, hein, j'ai aussi écouté des émissions comme ça sur Le Bon Plaisir, il y avait des émissions magnifiques. Et puis on pourrait aussi citer une émission Surpris par la nuit, hein, vous nous avez apporté un extrait d'ailleurs, on en écoutera tout à l'heure. Vous avez travaillé pour la série Une vie, une œuvre, une anthologie sur les écrivains ou les artistes. Puis j'en termine, vous continuez à faire des documentaires qui traitent de littérature, de cinéma, dans le mardi des auteurs, et vous collaborez aux émissions Sur les docs et à voix nue, et vous êtes une des grandes figures de France Culture, on peut le dire comme ça ?
Je ne sais pas, oui, je peux dire ça.
Je l'ai dit.
Alors, en fait, à voix nue, toutes ces émissions que vous avez citées en dernier, nous, je n'y collabore plus, mais voilà, oui, ça fait partie de tout,
De tout ce que vous avez fait. Et j'ai vu aussi que vous aviez écrit dans la revue Chimère, hein, la revue de schizoanalyse. C'est d'ailleurs par notre amie commune Christiane Voller, qui est déjà venue là, que nous avons fait votre rencontre.
Voilà, c'était dans le numéro sur l'herbe.
Voilà, tout à fait. Stéphanie,
alors,
je te laisse la parole.
Oui, alors Simone Dweck, avec votre livre « L'acte radiophonique, une esthétique du documentaire » qui a été publié aux éditions Créafis en 2021, vous nous faites profiter de votre expérience radiophonique. Alors c'est un livre qui est vraiment riche en histoire, touchant tous les pans de la culture. On y rencontre aussi beaucoup d'artistes, d'auteurs, mais aussi des inconnus. Car vous avancez, non pas, comme vous dites, caméra au point, mais micro en avant. Et à la radio, comme dans vos livres, on peut dire, je vous cite encore, que les paroles savantes et paroles populaires s'entrelacent. J'ai beaucoup aimé cette oui. phrase. Et cela, je trouve que c'est éminemment philosophique, au sens où Deleuze parle de la philo, qui est toujours la frontière entre le conceptuel et le non-conceptuel. Et en fait, votre livre n'est pas seulement le récit de vos aventures radiophoniques, mais c'est aussi un livre de réflexion philosophique, une analyse à la fois de l'acte de création, c'est-à-dire la création au sens artistique, hein, pas simplement une fabrication, une élaboration technique, hein, mais c'est aussi une réflexion sur l'effet du son sur l'auditeur. Alors, j'ai l'impression que c'est une approche aussi un peu phénoménologique. Alors, je dirais que ce livre, je trouve, est une pensée du lien. Alors, vous faites du lien entre les différents arts. Déjà, par exemple, vous montrez comment le son radiophonique nous donne à voir de la peinture. Du lien entre les différents sens, hein, les cinq sens. Par exemple, comment ce qu'on entend prend tout à coup certaines couleurs. Du lien entre l'auteur, à la fois l'auteur d'une émission, l'auteur d'un livre, donc celui qui écrit, et son auditeur ou son lecteur. Du lien dans l'espace, hein, parce qu'on se retrouve avec une émission de radio projetée dans les quatre coins de France, depuis notre cuisine, donc du lien entre l'espace public et l'intime, et du lien aussi dans le temps. Hein, on arrive à retrouver la chaleur de la vie d'une conversation passée, avec des bruits parfois d'objets qui n'existent plus, hein, des années plus tard. Alors voilà, Simone Douek, est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours et ce qui vous a permis de faire de votre travail un véritable acte de création artistique ?
Ouh là là, c'est une grande question. Mon parcours, il a été vraiment, très empirique, finalement. Quand j'ai commencé à faire de la radio, c'était à France Culture. C'était une émission qui s'appelait « Les après-midi de France Culture », qui était dirigée par Jacques Florent, qui était un personnage absolument solaire, extraordinaire et plein de... Et grâce à... Enfin, comment dire... Il explosait de toutes parts. Et grâce à lui, en fait, grâce à cette émission, on peut dire que la radio, enfin disons France Culture, est sortie du côté compassé, du côté peut-être un peu trop universitaire, peut-être un peu trop... pas formaté, c'est pas du tout ça que je vais dire. Mais disons de l'ancienne radio. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La radio sort dans la rue. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tout d'un coup, les bruits, les sons de la rue arrivent, que tout d'un coup, justement, toutes les paroles se mettent à compter, alors qu'auparavant, on avait des artistes, des écrivains, des personnages bien installés dans la création. Et tout d'un coup, le micro se tend vers... les gens de la rue, justement, enfin, comme vous disiez, ouais. Là, comme vous parliez...
À la rencontre du réel.
Voilà, et à la rencontre du réel. Donc, j'ai commencé là. Et puis, petit à petit, du direct, des documentaires, etc.
Bien. Bon, on peut peut-être écouter un petit extrait d'une de vos émissions.
Qui est tiré, on le disait tout à l'heure, pardon... Comme on l'entend, je suis un petit peu malade, qui est tiré de l'émission Surpris par la nuit.
Le voyage en boubou.
How are you?
Par Simone Douek.
Vous fabriquez des boubous?
Des boubous, non.
Non. Et est-ce qu'il y a des tailleurs dans la rue qui font des boubous?
Oui.
Où ça?
On peut partout. 48, 58, 22, 48, tout ça.
Bon, alors 22, 48, vous dites, sont des tailleurs. Merci.
Et Baptiste, il y a Yacine, il y a
de ceci à moi, qui a carte vitale. Nous vamos mutuelle, quoi. Moi, tu m'es d'accord.
Vous prolongez tout droit, cinquième rue à gauche, dans la rue Mira, vous allez trouver plein de couturiers africains. Oui. Ils font du boubou, ils font de la broderie.
D'accord, mais ils ont des boutiques comme ça?
Ils ont des boutiques comme ça, oui. Des ateliers, des coutures.
Ouais, ouais, ouais.
Ils ont tous leurs noms et leurs motifs.
Ah, ils ont un nom ?
Ils ont tous des noms de tissus, plus ou moins.
C'est quoi, par exemple, les noms ?
Bon, ça, c'est Fleur des Paradis, c'est le Super Wax. Si vous avez Ascaris, là, vous avez Rugby. Tiens, vous avez Cravate de Chirac. Ici, vous avez Nœud.
Cravate de Chirac.
Oui, vous avez 150 ans, c'est leur anniversaire, quand ils ont fêté. Ça fait 150 ans qu'ils existent, bon, maintenant, ça fait un peu plus. Ça fait 156 ans. Et puis, voilà, vous avez plusieurs noms, plusieurs modèles. Et là, vous avez des wax hollandais. Vous avez Génito. Vous avez Millionnaire sous forme des billets. Vous avez...
Alors voilà, on a écouté un extrait d'une de vos émissions, Surpris par la nuit, qui est très évocateur de votre travail. Hein, ce qui frappe dans vos émissions et au cours de votre livre, qui en est vraiment l'expression, Simone Dweck, c'est le lien très fort et paradoxal entre la voix radiophonique et le travail d'écriture, et à travers cette activité, l'immense possibilité d'accéder, de faire vivre d'autres formes d'art plus visuelles, comme la peinture et le cinéma. Je dis paradoxal dans la mesure où vous en rendez compte, et vous en rendez compte, on est dans la sollicitation d'un seul sens, Louis. Or, en vous appuyant sur un grand nombre d'exemples d'émissions que vous avez réalisées, je ne sais pas si on peut les chiffrer, vous nous faites vivre des émotions esthétiques en nous aidant à nous représenter ce que vous appelez un paysage sonore qui s'appuie donc sur notre imagination, qui est donc la capacité et la faculté à créer des images. Et pour expliquer cela, vous appuyez dès le début de votre ouvrage, hein, c'est... page 21-22, vous vous appuyez sur une distinction du linguiste Ferdinand de Saussure qui explique le signe par justement cette double face signifiant-signifié. Alors, vous expliquez ça de manière très simple. Hein. On sait que, évidemment, le signifiant, c'est l'image sonore du mot, c'est-à-dire le son. Hein. Le signifié, c'est le concept convoqué par l'image sonore. Et vous expliquez que, justement, dans notre langage quotidien, dans notre langage courant, nous sommes constamment à intéresser justement par le signifié, c'est-à-dire qu'on cherche évidemment pour l'utilité, pour l'efficacité de nos actions quotidiennes, à comprendre le sens en premier. Or, avec la radio, ça s'inverse. Hein. Or, la radio, elle, sonne à nos oreilles, alors que dans la communication quotidienne, il est possible de ne pas prêter attention à un bruit ou à un environnement, parce qu'on est plongé dans une situation d'échange, de signification. À la radio, tout signifie. De la voix qui énonce une phrase avec ses intonations ou ses inflexions multiples à l'environnement sonore qui l'entoure, fait de bruit, de musique, de sons divers, tout compte. Et vous dites encore, encore une petite phrase, le son est sens. Le signifiant prend le dessus de la même façon que dans un poème, le langage perd sa fonction instrumentale et devient l'objet. La radio se fait œuvre d'art. Donc,
vous écoutez Aligre FM 93.1.
Donc, je reprends. La radio se fait œuvre d'art, voilà. Et ce pourrait être une explication de son pouvoir hypnotique. Alors, est-ce que vous pouvez revenir justement sur ce pouvoir hypnotique, sur ce miracle de la radio, comme vous l'avez dit, qui permet justement de mettre en avant le son et de nous faire... de traduire des émotions qui d'ailleurs font que parfois, comme vous l'expliquez, on a du mal à supporter sa propre voix. Alors, je ne sais pas si vous aimez, vous, votre propre voix ou pas. Voilà.
Bon, c'est beaucoup de questions en une. Si vous voulez, je peux essayer de répondre à cette question, cette histoire de magie du son ou de prépondérance du son ou révélation du son ou œuvre d'art, peut-être en disant deux, trois mots sur le petit extrait.
Tout à fait.
C'était le but, oui.
qu'on vient d'écouter. Parce que, effectivement, là, c'est une émission donc sur un tissu. Sur le boubou.
Oui, oui.
Et ça veut dire que c'est une vraie aporie à la radio, quoi. C'est, ça, comment est-ce qu'on va faire parler un bout de tissu, aussi coloré soit-il, aussi inventif soit-il. Donc, par le son, enfin par les voix, mais par les ambiances, par le paysage sonore et par la mise en scène, en fait, tout d'un coup, on peut sortir complètement d'un bout de tissu muet. Et là, c'est un petit peu ça qui se passe dans le début de l'émission. C'est une mise en bouche. Toujours, on cherche à trouver finalement des mises en bouche, un départ en voyage. Là, c'est conçu vraiment. D'abord, c'est le titre de l'émission, mais c'est vraiment conçu comme un départ en voyage et un voyage qui ne va pas du tout nous mener en Afrique. Mais Rumira, la Goutte d'Or, à Paris. Et pourtant, on est complètement dépaysé. Donc, en fait, cette mise en scène, en fait, va nous mener petit à petit à découvrir ce tissu. Alors, on est comme ça, on est dans la quête aussi. Alors, il y a cette notion de quête que j'aime bien, là, pour le début d'une émission, qui nous fait attendre une suite. Là, il y avait encore toute une série de noms de boubous qui s'installaient. Et puis, Et puis, cette quête, elle nous mène d'un personnage à l'autre, d'une situation à l'autre dans cette émission, parce qu'il y avait aussi bien un créateur de boubous que des gens qui montaient une exposition à Mulhouse sur les filatures, puisque c'était dans les filatures de Mulhouse que se faisait ce tissu wax, etc. Et bon, c'est comme ça que, si vous voulez, j'aime bien par la mise en scène, par la mise en situation. Et puis, je peux dire aussi autre chose. Qu'on perçoit, que j'ai perçu là en vous faisant cet extrait, vous m'avez dit, faut pas que ce soit trop long. Vous voyez que il y a une lenteur, c'est le tempo. C'est une extrême lenteur. On s'installe, on rentre dans les boutiques, on en ressort. Et donc ça, je pense que ça aussi, ça fait partie de l'écriture de la radio, que cette manière, de cette possibilité qu'on a de transformer le tempo du réel. Je sais pas, bon, si on passe, nous, Rumira, pour ce, qui a complètement changé d'ailleurs. Aujourd'hui, elle est plus du tout, ça je crois que ça date de 2004 quand même, hein. La Rumira n'a plus du tout le même visage, et toutes ces petites boutiques, ces petits ateliers ont été démolis, etc. Mais cette notion de tempo est très très importante. Ouais. Voilà.
Michele, je te laisse la parole.
Merci Nathalie. D'habitude, on se focalise sur les sons, hein, sur la musique, quand on pense à la radio. Mais vous écrivez page 33. Aujourd'hui, voix, silence, son et bruit, musique constituent l'alphabet sonore dont se sert la radio. Donc, je trouve que votre perspective est tout à fait différente dans ce livre, que j'ose dire est un acte d'amour vers la radio. Je trouve ça aussi, pas seulement des réflexions. Et alors, ma question est la suivante. Comment décririez-vous la place du silence et du bruit dans votre esthétique radiophonique, Simon Doueck?
Elle est très importante, la place du silence, oui. Parce que, effectivement, écouter le paysage sonore, c'est écouter le silence. C'est écouter pas seulement le bruit. Je pense par exemple à un documentaire, enfin il n'aimait pas dire ça, une fresque sonore qu'a faite Yann Parentoen, qui est quelqu'un de très très connu en fait finalement dans la radio, qui était un véritable esthète lui aussi, enfin qui était un ingénieur du son, mais qui, outre son métier d'ingénieur du son, était aussi auteur radiophonique. Et donc il avait une manière, et c'est là par exemple qu'on peut trouver cette explication du silence, cette illustration du silence. Il fait par exemple un portrait sonore d'un village breton qui s'appelle Lesconil, qui est un port de pêche. Et dans le début de cette émission, on n'entend rien. Port de pêche, on s'attend à entendre la mer, les bateaux, les sirènes de bateaux, la criée. On l'entendra bien plus tard. Mais au début, on est dans le silence. Et justement, ce silence que l'on perçoit, il y a des gens qui parlent, il y a des voix qui décrivent effectivement ce qu'ils entendent, mais ils vous font pas entendre. L'auteur de l'émission ne vous fait pas entendre, ne vous fait pas une illustration de ce qui se dit, pas du tout. Ce sont les voix qui vous disent « Oui, ah bah on entend le bateau d'un tel qui part à la pêche. Ah, puis ça, on n'entend plus très bien parce que maintenant, il y a un immeuble qui s'est construit. Et puis, alors au fond, très très loin, vous avez... Et puis des grands silences aussi entre les mots des gens, parce que ce sont des gens réservés. Et ils laissent ces silences-là apparaître. Et ça vous met tout à fait dans une ambiance, enfin dans une manière de... En même temps, d'être dans le désir, justement, de l'écoute. Vous êtes dans le désir de ce que vous attendez, enfin, et de ce qu'on va vous donner un peu plus tard. Le silence, c'est ça, je crois. Il crée le désir. Mais le silence, je ne sais pas, par exemple, il traduit aussi dans un discours. Je crois que je raconte l'histoire du maire d'un village quand j'avais fait une enquête sur les déchets nucléaires. C'était à Bure, là où il était question que l'Andra installe un site de recyclage, etc., des déchets nucléaires. Bien sûr que la population était vent debout contre ce projet qui s'est malgré tout fait, qui a aussi montré qu'il y avait des failles et des fissures dans cette histoire. Mais donc le maire de ce village, lui, avait accepté de participer et de laisser faire cet enfouissement qui n'était qu'un laboratoire à l'époque. Mais je n'arrivais pas du tout à le joindre, ce monsieur. Il était fuyant, il était sur répondeur. J'ai jamais réussi à l'avoir avant que nous allions sur le terrain. Et le jour où nous étions là, je me suis dit, j'essaye quand même. Et donc, à l'heure du déjeuner, parce qu'en plus, le seul téléphone que j'avais, c'était son téléphone personnel. Et à l'heure du déjeuner, je l'appelle, et il était là, il me répond, et bref, on se donne rendez-vous dans la mairie. Et là, la façon dont il a parlé et dont il a répondu aux questions était pleine, pleine, pleine de silence. On entendait derrière lui l'horloge de la salle de la mairie, pleine de silence parce qu'il était gêné, parce qu'il n'était pas content, parce qu'il était furieux contre lui, parce qu'il, en général, il fuyait les journalistes. Ben, parce qu'il se sentait très mal à l'aise. Et là, les silences, oui, à ce moment-là, sont des miroirs de ce qu'est la personne, de ce qu'elle a à dire ou à ne pas dire.
Oui, donc, des silences parlants.
C'est toujours parlant, un silence, oui, toujours.
Nathalie.
Oui, alors moi, je voulais un peu faire une référence. Vous faites, je crois, aux alentours de la page 13 de votre ouvrage, une référence à Bachelard.
Oui.
Et à un article qu'il a écrit dans le Droit de rêver et qui s'appelle Rêverie et radio.
Oui.
Je voulais vous lire et lire aux auditeurs quelques passages de Bachelard. La radio est vraiment la réalisation intégrale, la réalisation quotidienne de la psyché humaine. Le problème qui se pose à cet égard n'est pas purement et simplement un problème de communication, ce n'est pas simplement un problème d'information, mais d'une manière quotidienne, dans les nécessités non seulement d'information mais de valeur humaine, la radio est chargée de présenter ce qui est la psyché humaine. Réalisation complète de la psyché humaine, par conséquent, il faut aller vers la base. Il faut aller vers les principes de l'inconscient. Il faut découvrir dans l'inconscient les bases de l'originalité humaine. La radio est une fonction d'originalité. Elle ne peut pas se répéter. Elle doit créer chaque jour du nouveau. Elle n'est pas simplement une fonction qui transmet des vérités, des informations. Elle doit avoir une vie autonome dans cette logosphère, dans cet univers de la parole, dans cette parole cosmique qui est une réalité nouvelle de l'homme. Il faut qu'elle aille chercher dans le fond humain des principes d'originalité. Ma question, mais vous devriez y répondre avant 30, avant le prochain petit générique d'Aligre FM, ma question était la suivante. Est-ce que vous croyez, Simone Dweck, que l'on peut considérer la radio comme une espèce de communion des inconscients ? ce que dit aussi Bachelard, c'est-à-dire essayer de retrouver un principe d'intériorité. Il parle d'ailleurs à ce moment-là de l'archétype de la maison. Hein. La radio serait l'essence de la rêverie intime. Est-ce que ce serait une définition de votre abord du documentaire à la radio ?
Oh oui. Oh oui, je pense que... Alors, je ne dirais pas dans les termes de Bachelard, oui, c'est pas mes termes,
oui,
de dire
comprends.
La communion des inconscients, je ne le dirais pas comme ça du tout. Hein. Mais je crois qu'effectivement, fabriquer un documentaire, c'est essayer de tirer les gens vers l'imaginaire. Ça, c'est sûr. Pour moi, c'est ça. Et pour moi, ça veut dire que faire un documentaire, c'est me détacher du didactisme. Évidemment, je traite un sujet. Évidemment, je me réfère au réel. Non seulement je me réfère au réel, mais j'enregistre le réel. Mais je pense que mon rôle n'est pas effectivement de faire un cours, pas du tout. C'est pas du tout de non plus d'être exhaustif sur un sujet. Ce sont les chercheurs qui sont exhaustifs, qui ont une thèse, qui ont un point de vue. Non, pour moi, c'est faire entendre quelque chose qui m'a intéressée, qui m'a émue, qui m'a attirée, le mettre en scène et faire en sorte qu'à travers un objet esthétique, c'est vraiment ça pour moi, c'est passer de l'information à l'objet esthétique. Et que cet objet esthétique qu'on fabrique, alors si vous voulez, on peut en parler un petit peu tout à l'heure.
Oui, on...
Hein, que cet objet esthétique, il est né justement de cette écriture créée par le montage.
Tout à fait.
Et ça, c'est très important. Alors après, pour revenir à Bachelard, l'idée que la radio est quelque chose à la fois d'intime et de collectif... Je le pense tout à fait. Je pense que chaque individu qui est devant son poste de radio, enfin on n'est plus comme ça maintenant, hein, c'est, oui. on ne dit plus ça,
ouais.
mais que chaque individu, effectivement, intègre à sa manière ce qui est raconté à l'antenne ou sur Internet, enfin, dans l'émission, dans le documentaire de radio. La radio, c'est intime et c'est collectif. Et je cite au début l'histoire de Desnos, qui a fait un essai d'hypnose à la radio.
Oui.
Alors, comment il fait ? Il est tout seul. Hein, et il répète tout le temps une phrase. Et il répète tout le temps cette phrase... qui est, je l'ai oublié, je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux, mais c'est au tout début. Et en fait, c'est dit dans une vague d'écho permanent, et ça, c'est quelque chose de tout à fait, qui amène à l'arrivée, mais qui fait que chacun prend ça pour lui, s'il veut, hein, et que c'est aussi quelque chose qui est diffusé absolument... pour tout le monde et partout. C'est l'intime et le collectif de la radio, en fait.
Oui, et le rapport aussi...
Vous ne souffrirez point, voilà, ça y est, ça me
voilà.
Vous ne souffrirez pas. Vous ne souffrirez pas. Vous ne souffrirez pas. Il y a des égos, des échos, des vagues qui viennent tout le temps.
Oui, c'est ce rapport au rêve et au documentaire radiophonique voilà, sur lequel on reviendra dans la seconde partie de l'émission, mais que Bachelard pointe ici, c'est-à-dire la radio, oui. quand elle est bonne, elle fait rêver. Autrement dit, elle n'est pas imitation ou collée au réel, elle propose quelque chose
rêver.
D'autre.
Elle Alors fait après, rêver. Je ne sais pas, parce que ce que lui pouvait réfléchir sur la radio dans ces années-là n'était pas forcément quelque chose qui ressemblait aussi à tous les documentaires qu'on a pu faire par la suite. Je crois bien que c'est la voix aussi qui devait le faire rêver.
Oui, complètement. Oui, tout à fait.
Aligre FM 93.1.
Voilà, nous sommes de retour. Alors, on va écouter, je propose, une chanson de France Gall. C'est toi, Stéphanie, qui l'as choisie.
Oui.
Hein, par rapport à la seconde partie de notre émission. France Gall, Cézanne, Pain. À tout de suite.
Silence les grillons sur les branches immobiles. Les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Silence dans la maison, silence sur la colline. C'est parfum qu'on devine. C'est l'odeur de saison. Mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. Cézanne peint. S'accomplir la magie de ses mains, ses alpins. Il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien. Il y met sa vie, le bruit de son cœur. Et comme un bateau porté par sa voile, doucement le pinceau glisse sur la toile. Et voilà l'homme qui croise avec ses yeux.
Voilà, c'est absolument un scandale. Nous avons empêché France Gall de terminer sa chanson. Très belle chanson, Cézanne Pain. Mais voilà, il faut que nous parlions, et avec en plus une auteure et une femme de radio, Simone Dweck, parler de son ouvrage, L'acte radiophonique, une esthétique du documentaire. Stéphanie, c'est toi qui as choisi cet extrait musical de France Gall. Pour quelle raison ?
Alors, cette chanson Cézanne Pain de 1984, je trouve, est très évocatrice de ce que vous dites dans votre livre. Bon, déjà, elle produit des correspondances entre les différents sens. Il y a la figure de ce peintre qui donne à voir, il éclaire nos yeux qui ne voient rien. On entend aussi dans la construction de cette chanson le bruit des grillons, un orage sur la fin. Elle parle beaucoup des silences. Et finalement, c'est aussi parce qu'il est question de Cézanne, qui est donc le peintre dont parle Alain Roger dans son livre que vous évoquez, Court traité du paysage, et pour lequel vous reprenez un concept qui est le concept d'artialisation. Donc c'est un concept très intéressant qui se trouve au chapitre 9 de votre ouvrage, qui s'appelle le chapitre Le portrait paysage. Et vous expliquez finalement ce concept d'artialisation de la manière suivante. Alain Roger donne au substantif une connotation positive, puisqu'elle décrit notre regard se saisissant de la nature et lui donnant une valeur visuelle. C'est le regard de Cézanne, dit-il, qui a inventé la Sainte Victoire que nous admirons aujourd'hui. Donc il a peint énormément de tableaux de la Sainte Victoire. C'est une manière d'interpréter la fabrication du paysage, qui n'est pas la seule, puisque la notion de paysage est aussi diverse que les pratiques qui s'y attache. Alors, voilà, on voit à travers ce que vous écrivez que nous esthétisons le réel en quelque sorte pour mieux le voir, à travers la peinture, à travers la radio. Et donc, ma question, c'est, est-ce que vous pouvez nous expliquer le parallèle que vous faites entre le paysage, qui dépend donc de notre regard esthétique, le regard esthétique qu'on pose sur le réel, et les portraits que l'on peut en faire à la radio. Autrement dit, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous appelez un portrait paysage?
Oui, alors ça, c'est vraiment un petit peu mon dada, le paysage. Et j'avoue que, d'ailleurs, le paysage, je suis en train de travailler dessus, justement, en ce moment, sur un paysage, sur un espace limité dans un paysage, que je regarde pas forcément d'une façon esthétisante. Je pense pas du tout que... Là, j'ai utilisé effectivement ce concept d'Alain Roger qui m'a intéressée et qui m'a simplement fait penser que effectivement j'arrivais à passer, je crois que c'est Cassirer, mais de l'univers des formes, de l'univers des sens à l'univers des formes, je crois que c'est qu'il le dit comme ça, mais si vous voulez, l'histoire de l'artialisation, c'est ça. C'est tout d'un coup, je regarde quelque chose et je me mets à le regarder d'une manière artistique, enfin esthétique.
Malgré vous.
Ouais. Esthétique. Malgré moi, voilà. Je ne vais pas dire que je suis complètement Alain Roger dans tout son raisonnement, mais ce mot m'a intéressée pour ça. Et puis aussi, il y a effectivement d'autres manières. Enfin, il y a mille manières de parler du paysage, effectivement. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressée pour la radio, c'est le concept oriental, extrême oriental, le mot paysage en chinois, que l'on traduit, nous, en deux mots. Ça s'appelle montagne haut, le mot qui dit en chinois paysage. Et enfin, après, je ne connais pas le chinois, il y a donc plusieurs mots aussi qui parlent du paysage, entre le paysage qu'on voit, le paysage représenté, etc., etc. Et montagne haut, eh bien, ça met en tension deux entités, une mouvante et une statique. Et j'ai trouvé que dans la montagne, et l'eau, dans la montagne, il y a de l'eau qui court. Et j'ai trouvé que pour la radio, pour décrire un paysage, c'était quelque chose de très important. C'est-à-dire de faire se lier ces deux éléments et de faire se transformer finalement un paysage visuel en paysage radiophonique. Alors déjà, on a le paysage sonore. Hein, le paysage sonore, c'est quelque chose qui est purement radiophonique, hein, qui nous décrit la nature ou la ville ou l'industrie, enfin tout ce que nous avons autour de nous. Et puis après, ce qu'on en fait de ce paysage sonore. Et puis il y a ce qu'on regarde, mais il y a ce qu'on regarde et qu'on veut faire entrer. Je disais faire entrer dans un creuset invisible, quelque chose qu'on a sous les yeux, ou bien, je pourrais dire, rendre visible ou rendre sonore un paysage que l'on ne voit pas à la radio. Et pourquoi je parle aussi de portrait paysage ? Parce que le paysage, c'est quelque chose qui a plusieurs couches, comme disait François Dagonier, il disait que c'était un palimpseste.
Oui, c'est ça. Hein ?
Et un palimpseste, effectivement, en pile, un tuilage. De couches, si vous voulez, d'histoire. Donc, un paysage, ce n'est pas seulement une vue du moment, c'est toute son histoire, et c'est toute son histoire, et c'est aussi toutes les voies qui le constituent, je veux dire les voies des gens qui habitent ce paysage, des gens qui le font vivre, qui le créent. Et donc, c'est un peu ça que je veux dire par portrait paysage, et je veux dire aussi que j'aime dire à la radio des lieux. Par exemple, j'avais fait toute une série que j'avais appelée Contemplation en quatre saisons, qui était quatre portraits de la montagne du Luberon, et qui sont la saisie de ce paysage, une espèce de superposition de l'hiver jusqu'à l'automne, pardon, pour passer les quatre saisons, une superposition de sons, donc, mais aussi de lieux que décrivent des gens et qu'ils décrivent avec la manière qu'ils ont de l'habiter. On pourrait dire, c'est plus une métaphore visuelle, mais ça se transforme, ça passait des vignes qui ne sont que des cèpes dans l'hiver, et petit à petit une luxuriance qui s'inscrit au fur et à mesure des saisons, et ce que j'ai rendu effectivement par les sons.
Oui, on entend bien que vous donnez à voir le réel, là, hein. Vraiment, il y a tous les sens.
Michele, alors, une question pour notre invitée Simone Dweck.
Absolument. On a déjà mentionné peut-être aussi là, ce regard tout à fait particulier d'une sorte de topographie des arts au milieu duquel vous placez la radio. Mais il y a aussi un élément très important et marquant dans votre analyse, c'est-à-dire encore l'écriture. Et alors, vous donnez un regard éclairant, je trouve, sur le documentaire, mais aussi sur le rapport avec la fiction. Mmh. Et vous observez, je vous cite, le documentaire est écrit comme est écrite une fiction. Et alors, vous corrigez, je trouve, un malentendu très commun, c'est-à-dire documentaire, pas d'écriture, fiction, écriture. Et donc, je trouve aussi que les scénaristes, peut-être les bons scénaristes, vont aussi vous remercier pour ça, Simone Dweck. Mais je crois que vous allez un peu plus loin. C'est-à-dire que vous proposez de problématiser la distinction même entre fiction et documentaire, qui sont deux genres qui ont plusieurs points de contact. Alors, je voudrais vous poser la question suivante. Dans quelle mesure cette distinction fluide est plutôt peut-être apparente et entre documentaire et fiction concerne la radio et l'esthétique radiophonique, Simone Dweck?
Vous voulez dire quelle est l'esthétique finalement commune aux,
oui,
aux deux? C'est
oui,
un petit peu ça?
Ah aussi, exactement. Et on peut dire aussi, est-ce qu'il y a une véritable distinction entre les deux quand on fait la radio?
Il y a forcément au départ une distinction en ce que la matière du documentaire et la matière de la fiction ne sont pas les mêmes. Cependant, bien évidemment, on le sait, la fiction se nourrit toujours de réel. Hein. Par contre, elle va la transformer et elle va la rendre autre, la rendre différente. Après, c'est, voilà. Mais le documentaire, en fait, se nourrit donc de réel, parle du réel, parle avec le réel, transcrit d'une certaine manière le réel, avec ses sons, avec ses voix, etc. La différence, c'est que déjà, c'est dans l'écriture, ça veut dire que l'écriture du documentaire se fait avec votre matière sonore que vous avez recueillie, quelle qu'elle soit, voix, son, musique, bruit, texte, des lectures de texte ou des choses comme ça, alors que la matière initiale de la fiction, c'est bien évidemment un texte. C'est un texte qui est écrit par un auteur de fiction, mais qui est écrit d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il pense quand même que ce n'est pas un livre qu'on va lire, c'est une fiction qu'on va écouter. Donc on pense sonore quand on écrit une fiction pour la radio. On pense sonore, on donne ce texte, et puis après, le réalisateur, alors le rôle du réalisateur est important, le réalisateur va s'en emparer, va choisir, faire un casting de comédien selon ce qui lui semble le plus proche de ce texte. Il y aura une lecture commune entre l'auteur, le réalisateur et les comédiens. Et après, l'auteur s'en va, s'éclipse. Et c'est au réalisateur, à la mise en scène et au bruiteur, alors là, par exemple, de mettre en scène cette fiction sonore, cette fiction pour la radio. Mais les points communs, en fait, c'est le récit, c'est la narration. Mmh. Parce que vous faites pas quand vous faites un documentaire, vous avez donc un point de vue, comme vous l'avez dans la fiction. Vous avez une manière de concevoir quand même une idée que vous avez et de la mettre en scène et de lui donner un début et de lui donner une fin. Alors la fin d'un documentaire, c'est pas forcément un point final tout brut. Ça peut être aussi une ouverture sur autre chose. Mais disons qu'il y a un cycle de narration qui s'est accompli. Et je pense que ça, c'est le point commun très important entre la fiction et le documentaire.
Donc on écrit, mais différemment.
Et alors on écrit différemment. Alors pour écrire pour le documentaire, là, oui. Pour écrire, là, c'est le montage. C'est-à-dire que l'écriture d'un documentaire à l'avance... parce qu'on est bien obligé de donner, quand vous travaillez pour une radio, vous êtes obligé de donner des projets. Hein. Mmh. Donc, vous faites un projet, mais vous n'écrivez pas un scénario. On ne peut pas écrire, comme c'est demandé d'ailleurs pour le documentaire film, ce que je trouve assez difficile, assez un peu aberrant d'une certaine manière, de demander un scénario à un documentariste de film. Hein. Parce que la situation documentaire vous fait tout le temps. Par contre, avoir l'idée de ce que vous avez envie de montrer, de dire, etc., bien évidemment. Donc, le texte est tout à fait réduit au départ du documentaire. Mais après, il y a toute la recherche, il y a tout le choix des intervenants, mais le choix des lieux, le choix de la mise en scène, le choix de la mise en situation, de la transposition de lieux, etc. Par exemple, Melville, je vais à Fécamp, je ne peux pas aller aux États-Unis, donc je vais à Fécamp, mais je me trouve au bord de la mer quand même, enfin, etc. Bon, et je crois que je me suis perdue, là.
Non, mais vous avez déjà magnifiquement répondu à
voilà,
cette question.
Je parlais du montage. Je voulais dire que le montage, c'est la deuxième écriture, en fait. Mmh. C'est ça, l'écriture, elle se trouve là.
Deuxième, donc, troisième, quatrième, donc c'est tout.
Disons l'écriture.
La réécriture.
L'écriture du documentaire.
Vous aimez beaucoup le montage, n'est-ce pas?
J'adore ça, oui.
Et oui, ça prend une belle partie de votre livre.
Oui,
donc,
oui.
Bon, Merci. Nathalie.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Alors nous sommes de retour avec Simone Douai qui nous fait l'honneur de venir aujourd'hui parler de son ouvrage « L'acte radiophonique, une esthétique du documentaire » paru en 2021 chez Créafis. Et malheureusement l'émission va pas tarder à toucher à sa fin. Moi je voulais peut-être revenir sur quelque chose qui m'a énormément marqué. Nous sommes à la fin de votre ouvrage, aux alentours des pages 214-215, un chapitre qui s'appelle « Lulu, un jour comme un autre, analyse d'une œuvre sonore ». Cette œuvre sonore, c'est Lulu de Yann Parentoen, vous en avez parlé à l'instant, qui a paru, si j'ai bien compris, sur France Culture en 88, c'est ça?
C'est la date qui est donnée, ça doit être ça.
Voilà, c'est ça. Et bon, c'est très intéressant parce qu'par votre analyse, j'irai très vite, mais par votre analyse, on comprend aussi ce qui anime votre rapport au documentaire radiophonique. La note de bas de page numéro 2 de la page 215, d'ailleurs, vous écrivez: Yann Parentoen n'aimait pas qualifier son travail de documentaire, vous l'avez dit tout à l'heure, il préférait dans certains cas la notion de fresque sonore. On a bien vu d'ailleurs tout à l'heure que vous avez parlé du son, le son chez vous, il rend compte aussi d'une histoire. Bon alors, pour tout vous dire, j'ai adoré aussi le chapitre qui vient avant, qui parle des archives. C'est absolument passionnant. Nous faudrait une autre heure.
Faudra lire le livre.
Voilà, nous indiquons à nos auditeurs que tout le passage sur Van Gogh, page 202, j'avais prévu de le lire. Bon, voilà, c'est magnifique où vous montrez ce que c'est que le son à la radio et ce que les voix peuvent porter comme histoire, comme rapport à la langue, comme insertion dans une période historique qui dit quelque chose d'une culture à un moment donné.
Voilà, enfin, évidemment, voilà. Pas la voix de Van Gogh. Hein.
Voilà,
mais la voix de quelqu'un qui
parle de Van Gogh. Mais bon, soyons Hitchcockiens, ménageons le suspense. Oui. Le lecteur ira voir par lui-même, page 202. Mais en tout cas, je voulais simplement par rapport à ce Lulu là que vous analysez, essayez de dégager finalement à partir de cette analyse votre rapport au documentaire sonore à la radio, où vous montrez donc la primauté chez Yann Parentoen du sonore, hein, dont on vient de parler à l'instant, la question du tempo que vous aviez évoqué tout à l'heure, hein, à l'écoute des protagonistes. Alors Lulu, c'est qui? C'est une femme de ménage qui fait le ménage à Radio France, hein,
oui,
c'est
à la maison de la radio.
À la maison de la radio, et que Yann Parentoen suit dans les locaux de la radio faisant son ménage. Donc la question du tempo, c'est aussi la question que le protagoniste, hein, Lulu, c'est la question du temps qu'elle imprime au documentaire même. Mmh. Hein. Y a aussi, moi, ce qui m'a vraiment frappé dans votre analyse, c'est quand vous dites qu'il s'agit pour Yann Parentoen de faire entendre le négligé ou l'anodin. Par exemple, les pas dans un couloir, les bruits de clés, hein, l'arrêt des ascenseurs, les portes qui se ferment. Autrement dit, je vous cite tout un univers sonore de la femme de ménage, tout simplement. Hein. Donc, il y a dans votre analyse ce qui se dégage finalement, c'est que le documentaire, on est toujours dans ce rapport du réel à la fiction, et comment le documentaire est capable de rendre onirique, hein, ce sont vos termes, tous les mots de tous les jours, et on dirait tous les gestes de tous les jours d'une femme anonyme faisant le ménage dans une... à Radio France. Donc c'est ce personnage de Lulu, hein, qui imprime l'idée que le documentaire est entre le rêvé et le réel, et qui, moi, m'a beaucoup touchée. Je propose peut-être de lire, si j'ai quelques secondes encore, mais je vais faire très très vite.
Avant votre lecture, je peux aussi dire que Lulu, c'est l'exemple parfait du documentaire. Regardez, ça aurait pu être un documentaire social sur Lulu. Ça aurait pu être effectivement la dure vie des techniciens de surface, comme on dit, à la maison de la radio, puisqu'il y en a d'autres qui interviennent qu'elle. Eh bien non, c'est pas ça. C'est ça pour moi la merveille du documentaire et de l'acte esthétique et de ce que j'appelle l'acte radiophonique, quoi. C'est vraiment un engagement pour fabriquer un objet esthétique. Et Lulu, c'est plus du tout... bien sûr qu'on sent sa vie, bien sûr qu'on sent plein de choses, mais à l'écoute, c'est quelque chose de différent.
Oui, l'idée centrale d'ailleurs de votre analyse, hein, de ce documentaire de Yann Parentoen, c'est l'idée que voilà, Yann Parentoen est en train de créer un objet singulier. Hein. Mmh. On vous a invité aussi aujourd'hui parce que vous mettez au centre de votre réflexion le documentaire radiophonique comme création, à l'image d'un tableau, à l'image d'une chanson, à l'image d'un film de cinéma. Donc, il crée un objet singulier et que vous nommez un art de sculpter. Alors, je me permets de lire quelques phrases parce que le temps tourne. Page 229 de votre ouvrage. Une sculpture peut s'élaborer dans des matériaux différents. On peut aussi la tailler dans la pierre. La pierre est impitoyable, elle requiert une rigueur plus grande encore. La pierre se sculpte en retirant, et en retirant inexorablement, de la matière pour créer l'objet. Les éclats qui partent ne sont plus rattrapables. Yann Parentoen, fils d'un tailleur de pierre, se nommait lui-même tailleur de son. Il avait ce sentiment de s'affronter à la matière sonore qu'il recueillait brute, comme des blocs bruts qu'on recueille d'une carrière, et qu'il forçait, l'art de la sculpture en plus, à raconter une histoire. Il façonnait cette matière pour qu'elle ait un sens. Je m'arrête là, il faudrait lire les pages avant et les pages après. Voilà, bon, finalement, ce rapport... Lulu, c'est vraiment fiction, c'est une fiction réelle et une réelle fiction. Hein, mmh. Vous vous inscrivez dans mmh. cet art du sculpter oui. par la radio.
Tout à fait. J'ai le droit de vous lire
tout à fait.
Un
allons-y.
Petit bout de phrase ah,
bien
de Proust.
Sûr, bien sûr.
Voilà, dans Jean Santeuil. Enfin, c'est vraiment un extrait de phrase, hein, comme vous savez. La fraîcheur qui s'élève le soir après une journée chaude près de l'eau et que semble peindre à l'oreille, sur le fond du silence, le bruit de la rame qui soulève l'eau régulièrement.
C'est très beau. Magnifique. Merci. Merci beaucoup, Simone Douek. Alors là, nous passons à notre petite rubrique flânosophie avec le générique de Camille Saint-Saëns.
Chères auditrices, chers auditeurs, pour la dernière fois pour cette saison de Philosophie au présent, je vous souhaite la bienvenue à cette petite rubrique que j'ai appelée Flânosophie. L'invitation est toujours la même. Prenez votre temps, éloignez encore pour un instant votre portable parce que pour cette Flânosophie, nous n'aurons pas besoin de beaucoup aujourd'hui. Après avoir flânosophé dans l'espace fermé d'une page écrite en mai et dans l'espace ouvert d'un nuage en juin, aujourd'hui, nous concluons notre exploration flânosophique des espaces improbables avec une bizarre dimension qui a donné pas mal d'inspiration à l'art, à la science, à l'architecture, à la créativité humaine en général, le trou. Extravagant espace, le trou, n'est-ce pas ? Ni fermé, ni ouvert, ni clair, ni obscur, ni nécessaire, ni superflu, ni vide, ni plein. Le trou est un véritable énigme philosophique qui oblige le flânosophe à parcourir plusieurs chemins. Avant tout, il y a le chemin esthétique. Pensons-nous par exemple aux œuvres de l'artiste italien Lucio Fontana. Ses coupures dans une toile ont la capacité d'ouvrir l'espace fermé d'un tableau vers un ailleurs, vers un au-delà qui engage l'œil de l'observateur dans le jeu du trou. Ou pensons encore au silence et à l'esthétique du son. Est-ce que le silence est un véritable trou dans un espace sonore tout plein? Ou plutôt, est-ce que ce que nous appelons musique, voix, bruit, ne sont pas un énorme et patent trou, une illusion consolatrice dans le silence souverain qui règne dans l'univers. Mais il y a aussi le chemin gnosiologique, c'est-à-dire ce que le trou me permet de connaître, ou encore mieux, comment le trou illumine le domaine de la connaissance. On pourrait dire que chaque connaissance est un véritable trou dans l'espace sans fin de l'ignorance et que chaque domaine de la connaissance est possible grâce à une petite cavité qu'est l'être humain modèle au milieu de l'inconnu. En ce sens, le philosophe est un découvreur professionnel de trous. Où tout le monde voit une surface sans irrégularité ni incohérence, sans problème ni inquiétude, le philosophe identifie un manque de compréhension, un espace fécond destiné à renverser la perspective sur les choses, comme Kant nous a bien montré, une surface à remplir, mais jamais à saturer. Et après les chemins esthétiques et les chemins gnosiologiques, le trou nous ouvre aussi un chemin ultérieur, le chemin de la pure merveille. Un mot bien connu, par exemple, Socrate platonicien du tête-à-tête, sans consent des références précises. Mais qu'est-ce que la merveille d'un trou nous permet de découvrir ? Alice ouvrit la porte qui donnait dans un petit couloir, à peine plus grand qu'un trou de souris. Elle s'agenouilla et vit alors, au bout du corridor, le plus joli jardin qu'on a jamais vu. Vous avez bien reconnu le mot de Lewis Carroll dans Alice dans le pays des merveilles, dans la belle traduction de Laurent Burry. Le trou est alors ce qui permet à la curiosité et à l'imagination de dépasser n'importe quelle difficulté, de parvenir à l'intuition suivante. Aussi au-delà d'une porte qui nous semble trop étroite, d'un obstacle qui nous ferme et enferme, il y a au moins la possibilité d'imaginer les jardins féeriques et divins à la Baudelaire qui nous attendent. Mais comme on le sait très bien, s'il faut cultiver notre jardin, il faut aussi cultiver nos trous philosophiques, parce que la santé d'un jardin doit beaucoup à la profondeur du trou qui héberge et garde les racines de ses plantes et de ses arbres. Et alors, bon été, buona estate à toutes et à tous les philosophes.
Merci pour cette métaphysique du trou contre la métaphysique du savoir absolu, un philosophique. Stéphanie, on a le temps pour notre petit questionnaire pas rationnel à notre invitée Simone Dweck.
Ouais, je voulais juste dire à Michele que sa philosophie du jour fait vraiment écho à ce qu'on a dit, c'est-à-dire à la paradoxalement l'idée que la radio donne à entendre par des silences, que la peinture donne à voir de l'invisible. Voilà. Alors, merci. Le principe du questionnaire pas rationnel, c'est justement qu'il n'est pas rationnel. On vous pose des questions auxquelles il faut répondre sans réfléchir, en une phrase. Des questions.
Combien ?
5.
Voilà.
Cinq.
Allez,
cinq
c'est
questions.
Parti, Stéphanie. Les 57,
on va se taper sur les doigts. Quel est votre rêve d'enfant ?
Mon rêve d'enfant ? Mais je ne peux pas répondre. Je ne sais pas.
Alors, en construction. Deuxième question. Qu'avez-vous envie de dire à la jeunesse ?
Oh là là, mais c'est des grosses, grosses questions, ça. Qu'est-ce que j'ai envie de dire à la jeunesse ?
Spontanément.
Spontanément ? Écoutez la radio ?
J'ai pas... Oui, ouais. Voilà.
Magnifique, c'est ça.
Quelle couleur pourriez-vous associer à votre parcours intellectuel ?
Le jaune, allez.
Le jaune lumineux, allez. La lumière. Alors, si vous étiez ministre de la Culture, quelle première décision aimeriez-vous prendre ?
Ah ben, j'aimerais bien que le ministre de la Culture s'occupe un peu plus des auteurs que ce qu'elle n'en dit. Alors oui, de faire attention à ce que les auteurs aient leur place d'un point de vue social, d'un point de vue, dans la société et de tout ce qui se fait, et que les œuvres puissent justement être non seulement protégées, mais qu'on puisse laisser des œuvres se faire. Ce qui semble vraiment
de plus en plus
difficile et de plus en plus interdit dans certains endroits.
Alors,
je ne dirai rien d'autre.
Dernière question. Quel autre métier auriez-vous voulu faire, s'il y en a un ?
Oui, danseuse.
Ah,
pas bien. Eh bien voilà, merci. Notre émission de ce 8 juillet 2023 sur Aligre FM Philosophie au présent, partenariat entre la radio et le Collège international de philosophie se termine. Merci à Simone Dweck, notre invitée du jour, qui a clos cette très belle saison. L'acte radiophonique, une esthétique du documentaire, votre ouvrage, voilà, Créafis édition 2021, qui fait de très beaux ouvrages, Créafis, voilà, il faut le souligner. Oui. Merveilleux ouvrage sur la radio et la nécessité de ce média qui aujourd'hui est bien galvaudé, qui a été grand, très grand et qui peut l'être encore. Merci beaucoup à Michele Saporiti d'être venu d'Italie, merci.
Merci à toi Nathalie.
Merci à Stéphanie Ronchevski de Gore, merci Stéphanie.
Merci Nathalie.
Et on reprend à la rentrée avec une première émission qui va se consacrer probablement aux 40 ans du Collège international de philosophie créé par Derrida, François Châtelet, Dominique Lecourt, Jean-Pierre Faye, entre autres. Hein, nous revenons en pleine forme. Très bon été à nos auditeurs d'Aligre FM. À très bientôt. Merci à tous.
Merci.
Merci.
écoutez Aligre FM 93.1.